Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si tous ont assisté à la leçon inaugurale. Donc, je prends un peu en même temps la suite, mais aujourd'hui, je débute la partie, disons, normale de ce cours après l'affaire solennelle qu'a été la leçon inaugurale. Et je crois qu'on va prendre ce sujet, donc, par la question probablement la plus difficile d'emblée. Difficile parce qu'elle est probablement la plus fondamentale de toutes. Et c'est-à-dire, quelle est la nature de ces savoirs autochtones ? Mais pour répondre à ce genre de questions, au fond, la plus grande difficulté est celle de trouver les bonnes questions, justement. On a souvent dit que l'important n'est pas de trouver les bonnes réponses, mais les bonnes questions. Et c'est en effet, je crois, un des problèmes majeurs quand il s'agit de traiter de la nature des savoirs, et des savoirs autochtones en particulier. Bon, les questions, donc... Il y en a eu un certain nombre déjà, dans l'histoire de l'anthropologie entre autres, en philosophie aussi bien sûr, et on peut la poser comme ceci, y a-t-il une nature commune à tous les savoirs d'abord, n'est-ce pas ? Et ensuite, y a-t-il une nature commune à tous les savoirs autochtones, n'est-ce pas ? Et si oui, en quoi sont-ils semblables et en quoi sont-ils finalement différents ? En quoi sont-ils aussi une classe à part ? Et là, je voudrais signaler que, par exemple, je vais mettre les noms au tableau. Un anthropologue qui s'appelle Arun Agrawal, par exemple, défend, qui enseigne à Michigan, lui défend que ce label savoir autochtone ne tient pas debout, enfin qu'il est mal placé, puisque au fond tous les savoirs sont à la fois des savoirs et que tous sont différents. Mais il faut bien entendu penser à des conditions à la fois politiques et sociologiques. Il est certain que les savoirs traditionnels ne bénéficient pas d'un appui institutionnel et budgétaire, n'est-ce pas, semblable ou comparable à celui de la science, c'est-à-dire du savoir tout court, comme je l'ai dit dans la leçon inaugurale. Bon, alors, ces savoirs autochtones peuvent-ils être compris par des traits communs ? Et c'est là, je crois, un très vieux problème. On pourrait remonter, une façon de prendre les choses par un bout, on pourrait remonter donc à Lévi-Brull, Lucien Lévi-Brull, qui avait un talent tout spécial pour trouver des formules malheureuses. Il a intitulé ses livres, un de ses plus célèbres livres, qui date de 1910, s'appelle « Les fonctions mentales dans les sociétés inférieures ». Vous voyez que... Et ensuite, le plus célèbre de ces livres, s'appelle « La mentalité primitive ». Il est de 1922. Dans ces ouvrages de cette époque, puisque je vais vous dire qu'il a renié, dans un moment, qu'il a renié toutes ces propositions initiales, mais dans ses ouvrages, donc, il insistait sur deux différences qu'il attribuait à la mentalité qu'il appelait primitive. Et ces deux différences étaient, mettons, la première, une croyance à une participation mystique, disait-il, c'est-à-dire à l'idée qu'on pouvait être à la fois, par exemple, un homme ou un ara ou un oiseau, n'est-ce pas ? C'était toute la question du totémisme qui était en jeu à ce moment-là. Et aussi, il parlait d'une pensée prélogique. Et là, la pensée prélogique avait ceci de particulier que elle avait une conception toute particulière de la causalité. Donc, en somme, ces gens pensaient différemment. C'était ce qu'ils soutenaient. Je tiens à dire que dans les carnets qui ont été publiés de façon posthume par son ancien élève Maurice Lennart, un très grand anthropologue, donc dans ces carnets, voilà les carnets, Lévi Brulle, qui ont été écrits à la fin de sa vie. Il est mort en 1939 et en 1937-38, il a écrit ses carnets. Non, en 1938-39, il a écrit ses carnets. Et là, il renie expressément toutes les positions prises dans ses premiers livres. N'est-ce pas ? Et j'ai même sélectionné une citation en exemple. Il y en a partout. Par exemple, le 1er octobre 1938, il écrit « Ce que je n'avais pas vu du tout quand j'ai parlé de la participation dans les fonctions mentales, c'est qu'elle est étroitement liée à la représentation du monde mythique et à la confiance que la mentalité primitive a en l'expérience mystique. J'avais l'idée préconçue, et qui s'est révélée inexacte, qu'elle procédait, sinon d'une particularité de la pensée logique chez les primitifs, primitif entre guillemets, du moins d'habitude spéciale de cette pensée différente des nôtres, idée qui paraissait plausible et claire, mais qui n'était ni l'une ni l'autre. » Vous voyez qu'il est très, très catégorique. Il y a plein de... par exemple, page 184, le 1er novembre 1938, il dit... Il dit « J'ai eu tort de vouloir expliquer la différence entre eux et nous par des raisons logiques. Elle provient du fait que l'expérience mystique a pour eux une valeur objective qu'elle n'a pas à nos yeux. » Et ensuite, il met entre parenthèses une observation très, très intéressante. Il dit « Mis à part le miracle et la foi religieuse. » C'est-à-dire qu'il continue. Pour eux, il est normal que l'anormal se produise et leur attention se polarise sur les conséquences qui les touchent. Bref, ce qui s'est passé, c'est que Lévi-Brulle, quoi qu'en dise, s'est démenti, a été pris un peu à partie par tous ses successeurs, et notamment par son contemporain Durkheim, n'est-ce pas ? Il y avait là aussi une question de faction universitaire. Lévi-Brulle était professeur de philosophie à la Sorbonne, je ne sais plus dans quelle chaire. Et Durkheim, avec ses étudiants, qui malheureusement ont été en grande partie décimés, sauf Halbach, justement, par la Première Guerre mondiale, tous ceux qui avaient survécu, pratiquement, il les a placés un peu partout dans le système universitaire français. Ce qui veut dire que le groupe de l'année sociologique avait quand même une très grande prééminence, n'est-ce pas, dans le système académique. Mais ce qui est aussi intéressant, je crois, c'est que Durkheim, qui dira d'ailleurs à Lévi-Brulle tout de suite que parler de mentalité, de pensée plutôt prélogique, est une contradiction dans les termes, puisqu'il ne peut y avoir de pensée que logique, n'est-ce pas ? Mais Durkheim, lui, ne réfléchit pas sur la pensée. C'est ça qui est aussi intéressant. Au fond, il change d'objet, en un certain sens, puisqu'il propose une théorie sociologique de la connaissance. C'est là toute l'innovation de Durkheim, qui en 1903 publie avec son grand successeur et neveu, Marcel Mauss, l'essai sur quelques formes primitives de classification. Enfin, le titre est à peu près ça. C'est dans cet essai, qui est devenu absolument un classique, il traite, au fond, des catégories de l'entendement. des choses comme le temps, l'espace, la classe, les causes, la substance, enfin tout ces. Et ce qu'il en fait, ce qu'il fait de ces catégories, c'est de dire, au fond, toutes ces catégories découlent, n'est-ce pas, découlent de et sont des représentations collectives. Ce sont les termes qu'il va utiliser. Et de quoi découle-t-elle donc ? Eh bien, elle découle de la morphologie sociale, dira-t-il. C'est-à-dire, elle découle de ces opérations logiques, de la façon dont le groupe s'organise, et donc sa morphologie spatiale elle-même, et au fond, la façon dont il se conçoit divisé intérieurement. Par exemple, ces classes, ces clans, ces moitiés, toutes sortes de façons de se penser morphologiquement. N'est-ce pas ? Et puis, il dira aussi, Durkheim, c'est un point important, que ces concepts, n'est-ce pas ? Et parmi les concepts, ces catégories-là dont j'ai parlé sont les plus fondamentales d'entre toutes. Ces concepts sont donc, en tant que représentation collective, quelque chose qui s'impose aux individus, qui en quelque sorte les précède, n'est-ce pas, et que la société leur impose, n'est-ce pas. Et là, on commence à voir chez Durkheim un problème qui est au fond récurrent partout, c'est-à-dire, en fait, que sont ces représentations collectives, n'est-ce pas ? Est-ce que ces catégories ont un contenu, n'est-ce pas ? Ou sont-elles simplement des capacités de l'entendement, n'est-ce pas ? Vous voyez que si Durkheim commence à parler d'une théorie sociologique de la connaissance, cela nous amène immédiatement à une question, qu'est-ce qui garantit que nous autres, qui sommes aussi des sociétés, n'est-ce pas, qu'est-ce qui garantit que ce ne sont pas aussi que ce que nous croyons être une science objective n'est pas, elle aussi, une fonction, tout simplement, de notre organisation sociale, n'est-ce pas, puisque s'il y a relativisme, il faudrait l'étendre à tout le monde, n'est-ce pas. Donc, Durkheim se trouve une issue qui est de dire oui, c'est vrai, mais nous vivons maintenant dans une ère globale, on n'utilise pas la mondialisation, mais c'est tout comme, et donc nous sommes de moins en moins soumis, n'est-ce pas, à notre organisation sociale particulière, et donc le savoir s'affranchit en quelque sorte de l'organisation sociale à partir d'une certaine complexité de la société. Comme vous voyez, c'est un argument un peu spécieux, mais enfin c'est ce qu'il avance en 1912. Donc dans les classifications primitives avec Mauss, il écrira qu'il y a une relation causale entre l'ordre social et l'ordre conceptuel. Et même plus, il dira que ces classifications prennent pour modèle, n'est-ce pas, les formes de la société. C'est là l'argument que plus tard, en 1962, Lévi-Strauss ira renverser, n'est-ce pas, dans son livre Le totémisme aujourd'hui. J'y reviendrai peut-être. Je voudrais d'ailleurs signaler qu'il est intéressant de voir que, en fait, Durkheim, en 1903, utilise des termes qui sont très proches de ceux de Lévi-Brühl, primitif, confusion, enfin toutes sortes de termes qu'il disputera en fait avec Lévi-Brühl plus tard. Pour en revenir donc à ce débat entre Lévi-Bruhl et Durkheim, je vous dirais que il y a un exemple classique, paradigmatique, qui est utilisé à tout bout de champ par tous les savants, qui est l'exemple des bororos. Les bororos sont devenus célèbres pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils étaient le point de discorde entre les représentations, enfin, sur les représentations mentales, et bien plus tard, en 64, parce que c'est d'un mythe bororo que Lévi-Strauss va partir comme son mythe 1, le mythe numéro 1, dans ses 4 volumes de mythologique, plus les 3 autres, n'est-ce pas ? Pourquoi les bororos ? Eh bien, tout simplement parce que un savant allemand du 19e siècle, von den Steinen, avait séjourné assez rapidement, mais pour la première fois d'ailleurs, chez les bororos du Brésil central, et qu'il avait rapporté que ces bororos disaient qu'ils étaient des aras. Alors, comment peuvent des hommes se considérer aussi des oiseaux ? Et ce mystère a fait couler énormément d'encre. Je dois dire que jusqu'à très récemment, on a continué d'ailleurs de parler de ce fameux dire bororo. Et la dernière en date peut-être de ces explications est bien entendu beaucoup plus contextuelle. Elle est amusante. Je ne sais pas si je vous la raconte quand même. Un ethnologue qui a travaillé chez eux, John Christopher Crocker, c'est pas la peine. Il a décrit, n'est-ce pas, ces maisons bororo qui sont typiquement formées par des beaux-pères et des gendres, n'est-ce pas? Que les beaux-pères font travailler et donc plument tant qu'ils peuvent comme une réciprocité pour leur avoir cédé leur fille. Donc les jeunes gens sont, et bien entendu, dans le village, il y a beaucoup d'aras, dont d'ailleurs certaines photos sont publiées par Lévi-Strauss, soit des aras plumés. Dont les plumes servent à faire des ornements. N'est-ce pas ? Donc la comparaison que John Christopher Crocker explique entre les bororos et les lézards, c'est qu'on plume, les jeunes gens se sentent plumés absolument par leur beau-père en le travaillant pour eux et en leur apportant les produits de leur chasse, etc. Donc c'est tout à fait contextuel. Mais n'empêche que c'est un exemple classique. Et c'est un exemple classique que Lévi-Bruhl va prendre pour parler de ce qu'il appelle la participation, n'est-ce pas, un principe de participation, qu'il dit être incompréhensible pour nous, il le dit en 1910, n'est-ce pas, comment peut-on à la fois être soi-même et quelque chose d'autre que soi-même, dit-il. C'est incompréhensible. Et c'est aussi incompréhensible qu'il pense recevoir des forces, des vertus, des qualités et une influence mystique qui sont senties comme venant du dehors. Et Durkheim va lui répondre en 1912 qu'au fond, il n'y a pas de différence, dira-t-il, entre la mentalité donc, que Lévi-Bruhl appelle primitive, et la nôtre. Il dit, Durkheim dira, la science contemporaine est plus objective parce qu'elle repose sur des observations davantage contrôlées. Mais quand on dit que la lumière est une vibration dans l'éther, quelle différence y a-t-il entre cela et de dire que le soleil est un oiseau ou que l'homme est un kangourou. Et là, c'est intéressant qu'il ait pris cet exemple parce que justement, l'éther, n'est-ce pas, a été évacué, disons, des hypothèses de la science. L'éther qui était jusqu'à Michelson, n'est-ce pas, supposé être le véhicule, disons, de la lumière, n'est-ce pas ? Quand on s'est aperçu que la lumière prenait avait une vitesse, enfin, arrivait avec une vitesse égale, quelle que soit la distance, n'est-ce pas, du Soleil, on s'est dit il y a quelque chose qui ne va pas. J'y reviendrai parce que c'est un exemple intéressant. Alors, à partir de Lévi-Brulle et en 1937 tout particulièrement, un ouvrage ethnographique va changer complètement la donne. Oui ? C'est pas bon ? Vous m'entendez pas ? Si ? Ah. Merci. Alors, c'est Evans Pritchard, enfin, je pense que, qui est un anthropologue britannique, dont le livre peut-être le plus célèbre est Les Nouers, qui est traduit en français, mais il a écrit aussi avant Les Nouers, Les Nouers est de 1940. En 1937, il publie un livre sur une population zandée du Soudan. Et ce livre porte sur un système de sorcellerie et de divination chez les zandés. Ce livre est absolument capital parce qu'il démontre dans ce livre qu'il y a une cohérence et une logique totale dans les modes de connaissance zandés si on les comprend dans leur si on comprend leurs prémices, voilà, si on accepte leurs prémices. Je vais aller rapidement là-dessus, c'est assez connu, mais il y a deux questions qui m'intéressent là-dedans. C'est que d'abord, donc, il montre qu'une fois qu'on accepte l'existence de la sorcellerie, par exemple, les principes de la divination, tout le reste est parfaitement logique et qu'on peut parfaitement se situer là-dedans. Lui-même dit qu'il savait très bien penser dans ses prémices, disons. Et qu'il suffit, au fond, d'établir certaines règles qui empêchent les contradictions d'affleurer. Par exemple, le prince ne peut jamais être accusé de sorcellerie. Bon, c'est une bonne chose, comme ça, on ne risque pas de se faire démentir, entre autres choses. Bon, donc il n'y a pas d'inconsistance. La logique chez eux est la même que chez nous, n'est-ce pas ? Et alors, c'est intéressant parce que Evans Pritchard pense à Lévi-Brulle quand il écrit son livre et il dit, en fait, ça n'est pas Lévi-Brulle qui pense qu'il y a une autre logique chez les sauvages, n'est-ce pas ? La phrase exacte est la suivante. Pour Tyler et Fraser, qui sont donc des anthropologues très connus de la fin du 19e et début du 20e siècle, pour ces deux-là, le sauvage croit à la magie parce qu'il raisonne incorrectement. Mais pour Lévi-Brulle, il raisonne incorrectement parce qu'il croit en la magie. Donc, c'est un renversement, si vous voulez, des hypothèses. Et c'est intéressant parce que Lévi-Brulle écrit à Evans Pritchard à ce moment-là, donc après 37, au moment où il est déjà en plein mea culpa, n'est-ce pas, pour dire que il dit le fait que les formes de pensée sont différentes n'empêche pas, une fois les prémices données, les hypothèses données, n'empêche pas le primitif, n'est-ce pas, de raisonner comme nous. Et donc, en ce sens, sa pensée n'est ni plus ni moins logique que la nôtre, n'est-ce pas ? Mais l'autre point qui est important et qui va être repris très souvent, notamment par Lévi-Strauss, c'est la question d'une explication totale. Evans-Pritchard raconte, n'est-ce pas, que comment bon, il donne des exemples d'occasions dans lesquelles on invoque la sorcellerie. Eh bien, par exemple, si un homme va tirer un somme après son repas sous un grenier, n'est-ce pas, les greniers sont surpilotis, n'est-ce pas, et que ce grenier s'effondre sur lui, n'est-ce pas, c'est de la sorcellerie. Alors, pourquoi est-ce de la sorcellerie? Et on lui explique, voilà, tout le monde sait très bien que les termites ayant mangé les supports, les piliers du grenier, n'est-ce pas, du silo, si vous voulez, ce grenier peut s'effondrer, mais ça n'explique pas tout, parce qu'on sait très bien aussi que les gens aiment dormir après un repas, n'est-ce pas, mais cela n'explique pas la convergence de ces deux séries. C'est-à-dire, cela n'explique pas que ce soit juste à ce moment-là que le grenier se soit effondré sur cet homme en particulier. Donc, ce raisonnement, c'est ce que les Andais appellent la deuxième lance. La deuxième lance, c'est une métaphore pour le fait qu'on tue une proie avec une lance, mais il y a une deuxième lance, d'une certaine façon, qui l'achève. Donc, c'est la convergence de ces deux séries, du fait qu'il y a à la fois, n'est-ce pas, deux explications logiques, mais qui n'expliquent pas, au fond, quoi, le hasard. C'est donc l'évacuation du hasard qui est, disons, le résultat de la croyance en la sorcellerie. La sorcellerie permet, n'est-ce pas, d'éliminer l'idée de hasard. C'est une explication complète, dit Evans-Pritchard. Donc, on connaît on est parfaitement conscient d'explications empiriques, mais il faut clore, si on veut, l'événement en éliminant le hasard. Bon, j'ai dit dans ma leçon inaugurale que Evans-Pritchard a devancé Kuhn et sa théorie des révolutions scientifiques, n'est-ce pas, parce que au fond, ce que Evans-Pritchard montre, c'est que les théories se défendent en quelque sorte, c'est-à-dire qu'elles accommodent tant qu'elles peuvent les choses qui semblent tomber hors de leur domaine, disons, de leur pouvoir d'explication, n'est-ce pas. Et on peut revenir à l'expérience de Michelson, justement, qui aurait pu prouver tout de suite une physique non newtonienne, et que cependant des gens aussi éminents que Poincaré, n'est-ce pas, et Lorentz ont réussi à incorporer dans la physique newtonienne. Et c'est un premier Marc qui s'est demandé s'il fallait pas au fond oublier l'existence de l'éther, l'hypothèse de l'existence de l'éther, mais qui n'a pas poussé la chose jusqu'au bout. Et ce n'est qu'avec Einstein et la théorie de la relativité qu'on va passer à un nouveau paradigme complètement différent, où donc la vitesse constante de la lumière devient une donnée, alors qu'elle était un problème auparavant. Bon, je vais passer très vite et vous parler rapidement maintenant de la position de Lévi-Strauss en 1962. Donc, il publie deux livres très importants qui se font suite. Le premier, c'est Le totémisme aujourd'hui, et le second, c'est La pensée sauvage. Je vais parler uniquement ici de la pensée sauvage, quoique il y aurait quelque chose à dire. Bon, parlons de la pensée sauvage. Dans la pensée sauvage, Lévi-Strauss, d'emblée, parle n'est-ce pas, des formes de pensée qui ne sont pas notre pensée occidentale. C'est un terme, vous en conviendrez, très vague, bien entendu. Mais enfin, l'important, c'est ceci. En quoi se différencient ces deux pensées? Alors, Lévi-Strauss va prendre, lui aussi, Lévi-Brull comme épouvantail, si vous voulez, n'est-ce pas, quoiqu'il ne le cite pas directement, mais il est évident que quand il intitule « La pensée sauvage », c'est pour son livre « La pensée sauvage », c'est pour s'opposer à la mentalité primitive, n'est-ce pas? Et la pensée sauvage, je l'ai fait remarquer il y a une semaine, ça n'est pas, je le répète, la pensée des sauvages, n'est-ce pas? C'est la pensée à l'état sauvage, donc dont l'antonyme serait la pensée domestiquée, si vous voulez. Alors, quelle est la différence? Pour Lévi-Strauss, la différence entre ce type de pensée, eh bien, elle n'est pas dans les procédures, elle n'est pas dans la logique, n'est-ce pas? Elle est tout entière dans les matériaux, c'est-à-dire la pensée scientifique, si vous voulez, procède à partir de concepts, dit-il, alors que la pensée sauvage part des percepts, c'est-à-dire des éléments de la perception. C'est-à-dire aussi, une autre façon de faire cette même opposition, c'est de dire, eh bien, nous, scientifiques, partons des qualités premières, c'est-à-dire de ce qui est vraiment fondamental, n'est-ce pas, de ce qui est l'essence même, de ce qui est, en somme, le concept, c'est ça, au fond, le concept, et ces autres pensées, elles partent des qualités secondes. Ces qualités secondes, ce sont des choses comme les odeurs, les couleurs, les formes, donc des critères qui ne sont pas tenus pour être primordiaux, n'est-ce pas ? Mais qui ont été à la base de tout un courant de pensée dont peut-être le plus célèbre représentant, et Lévi-Strauss en parle, est Goethe, n'est-ce pas, qui s'intéressait beaucoup à cette idée à ces qualités secondes comme des principes d'explication. Et Lévi-Strauss va reprendre ce thème à plusieurs reprises, mais enfin, ce n'est pas le moment d'en parler en ce moment. Alors, donc, d'une part, la différence tient aux matériaux utilisés. C'est là que Lévi-Strauss va faire la célèbre métaphore du bricolage, n'est-ce pas ? Qu'est-ce que le bricolage ? Le bricolage, c'est partir non pas du matériau expressément fait pour ce à quoi il va servir, mais de prendre au fond le rebut de quelque chose d'autre, c'est-à-dire quelque chose qui a déjà servi et qui peut servir à autre chose, n'est-ce pas ? Donc, la différence entre l'ingénieur et le bricoleur, c'est que l'ingénieur part d'un plan et fabrique, si vous voulez, les pièces destinées uniquement à ce plan, alors que le bricoleur, eh bien, il prend ce qu'il a sous la main. Et c'est avec ça qu'il compose un autre objet. Donc, l'ambition, enfin, avec cette métaphore, n'est-ce pas, qui d'ailleurs est tirée des acquaintances de Lévi-Strauss avec les surréalistes, qui étaient qui prisaient beaucoup, n'est-ce pas, les objets trouvés, toutes ces manifestations, disons, d'art naïf, ce qu'on appellerait d'art naïf. Bref, Lévi-Strauss, par cette métaphore, va dire, au fond, l'ambition est la même. C'est-à-dire, les opérations logiques sont les mêmes, l'ambition est la même, mais les matériaux sont différents. Et puis, il va aller encore plus loin, il va dire, eh bien, non seulement l'ambition est la même, elle est en fait beaucoup plus grande, parce que justement, il y a la deuxième lance. Il reprend l'exemple absolument classique de Evans-Pritchard Et il va dire, voilà, la science s'accommode de ne pas tout pouvoir expliquer, alors que la pensée sauvage, si vous voulez, ne s'en accommode pas, justement. Elle exige une explication totale, complète, qui ne laisse aucune place au hasard. Donc, l'ambition de cette pensée est telle qu'elle ne se satisfait pas d'une détermination à demi. Elle exige une détermination complète. Alors, je vous ai donné très rapidement un peu l'histoire de ces débats, et je voudrais en venir maintenant à quelques approches contemporaines qui me paraissent importantes des savoirs traditionnels. Alors là, je passe vraiment à des courants qui sont, comme je le disais, contemporains, mais qui nous viennent de deux traditions très différentes. Une de ces approches vient d'une tradition cognitiviste. D'ailleurs, elle se comprend elle-même, du moins au départ, comme une sorte de psychologie cognitive qui prendrait le large. Parce qu'elle reproche à la psychologie cognitive, justement, de faire ses recherches et expériences avec des méthodes très contrôlées, très bien calibrées, mais sur un sous-groupe très restreint, en revanche, de l'humanité. J'ai travaillé dans une université américaine, dans tous les couloirs, on trouvait des petits bouts des annonces disant « Voulez-vous participer à un test de psychologie cognitive ?» Et les étudiants gagnaient $10 pour se soumettre à ces tests. Donc, ce sont les étudiants, en général, qui font l'échantillonnage, disons, des tests de psychologie cognitive. Donc, les anthropologues, bien entendu, trouvent que c'est très bien de faire des expériences contrôlées, mais peut-être faudrait-il aller voir un peu ailleurs, n'est-ce pas ? Et avant de poser surtout les résultats comme valables universellement. Donc, l'anthropologie, quoique ayant des méthodes beaucoup moins rigoureuses, permettrait d'élargir les bases expérimentales de ces mêmes méthodes, n'est-ce pas ? Donc, les questions que se pose cette école sont au fond les mêmes que la psychologie cognitive elle-même, n'est-ce pas ? Elle se penche, par exemple, sur les processus mentaux qui gouvernent l'acquisition de l'information, la mémoire, n'est-ce pas ? Elle cherche à contribuer aussi à ce très vieux débat entre l'inné et l'acquis. C'est un débat qui partage les scientifiques, bien entendu, pour ce qui est de la cognition. Et elle se propose aussi de comprendre les savoirs autres en faisant la part de l'universel, n'est-ce pas, dans l'espèce humaine, et puis en s'interrogeant sur les sources de ce qui n'est pas universel. Par exemple, quel est le rôle des schémas, des valeurs culturelles, et quel est l'apport de l'expérience individuelle dans la cognition qui n'est pas universelle. Alors, cette approche a opéré deux choix. Elle a d'abord choisi comme terrain privilégié le domaine biologique. C'est là, d'ailleurs, une constante. Vous verrez que ça réapparaît ailleurs. L'hypothèse est que le domaine biologique va en quelque sorte de soi, parce que l'expérience de l'environnement, de ce qu'on appelle l'environnement, c'est un terme chargé aussi, est supposément universel. Ensuite, il y a un second choix. Dans ce domaine du biologique, ce courant s'est attaché aux classifications dites naïves ou autochtones pour les mettre en regard de nos classifications, mais dans un esprit très différent de ce que nous avons déjà vu. Ce n'est pas que les classifications scientifiques, qui d'ailleurs, bien entendu, ont varié au long de l'histoire, n'est-ce pas, que ces classifications scientifiques soient un paramètre absolu, n'est-ce pas, destiné à donner la mesure des écarts qui existent entre elles et celles des autres, mais au contraire, c'est pour ranger n'est-ce pas, les classifications scientifiques aux côtés de toutes ces autres classifications pour obtenir un échantillonnage aussi large que possible afin de déceler ce qui, en dernier recours, constitue l'objet de cette expérience, à savoir qu'est-ce qui est universel, qu'est-ce qui ne l'est pas, et dans cette dernière catégorie, les différentes causes de la diversité des classifications. Et dans un sous-courant, si vous voulez, dans certains courants, s'ajoute à ces questions un souci d'explication évolutionniste des processus cognitifs. Donc, cette anthropologie-là fait partie, au fond, d'un domaine beaucoup plus vaste, qui est la cognition, qui s'intéresse à des choses comme l'intelligence artificielle, la neuroscience et toutes sortes d'autres disciplines, la linguistique, n'est-ce pas, des disciplines qui peuvent se réunir sous ce label science cognitive. Alors, une toute autre approche, celle-ci d'inspiration phénoménologique, est celle d'un anthropologue qui enseigne à l'université d'Aberdeen, en Écosse, Tim Ingold. Alors, pour saisir la façon dont... je dis tout de suite, son inspiration est phénoménologique, n'est-ce pas ? Donc, un point de départ très différent. Alors, pour saisir la façon dont il considère le savoir traditionnel, il faut situer son approche dans une démarche beaucoup plus générale. Et d'ailleurs, disons-le tout de suite, il veut appliquer cette approche non seulement au savoir dit traditionnel, mais au savoir en général. Donc, y compris la science, et quelle que soit l'image que la science prétende donner de ses propres procédures. Alors, il commence dans la mesure où Ingold, j'écris son nom. Attendez. J'ai omis de donner les noms, je ne sais pas si c'est important, mais enfin, bref, pour vous donner quelques noms que j'ai omis de citer sur les cognitivistes, on peut citer Scott Atran, on peut citer Brent Berlin, plus ancien, mais toujours en exercice, et Dan Sperber, que vous connaissez tous, Boyer, etc. Alors, Tim Ingold entend que le vocabulaire conspire pour nous donner une fausse idée de la façon dont nous vivons dans le monde. Et donc, il va commencer par procéder à une sorte de révolution du vocabulaire qui, pour lui, donne un effet d'inversion, n'est-ce pas ? Et il va donc stabiliser ce renversement des points de vue habituels en créant tout un nouveau vocabulaire qu'il faudra que je vous explique un peu pour que vous en fassiez une idée. Et à nouveau, Ingold, c'est de bonne guerre. Il sait parfaitement qu'il caricature un peu, pour les besoins de son argumentation, la position qu'il prétend combattre, n'est-ce pas ? Et il faut tenir compte, bien entendu, de certains effets rhétoriques, là. Mais toujours est-il que Ingold débusque les traces de groupes d'idées qui se soutiennent, en effet, les unes les autres, et certaines de ces idées relèvent d'un fonctionnalisme qui remonte à Durkheim, justement. C'est donc dire qu'en un certain sens, il enfonce des portes ouvertes, mais qu'il le fait d'une façon très intéressante et systématique. Et alors, par exemple, un de ces ensembles d'idées qui se tiennent les unes les autres nous amènerait à nous penser comme occupant une position elle-même close et donnée d'avance. Alors qu'il faudrait, au contraire, penser la vie de chacun comme un processus formé par les parcours mêmes que nous traçons. C'est pourquoi il va parler de habiter le monde. Vous voyez tout de suite l'aspiration phénoménologique. Il va parler d'habiter le monde. Il va utiliser le terme dwelling, habiter, au fond, et non occuper un espace. Alors, il nous fait penser, enfin, il nous enjoint de penser en termes de mouvement, de chemin, et non pas de frontières et de limites. Alors, par exemple, il fera un petit dessin. Il fait beaucoup de dessins, d'ailleurs. Il dit, voilà, on veut que nous pensions à occuper, disons, des positions, n'est-ce pas ? Alors qu'il faut, au contraire, penser au chemin que nous parcourons, n'est-ce pas ? Aux expériences, au fond, à notre engagement dans le monde, n'est-ce pas ? Puis il dira aussi, donc ceci, c'est l'occupation. Et là, c'est le dwelling ou habiter. L'habitation, si vous voulez. Vous verrez qu'il y a... il continue, n'est-ce pas ? Et alors, il emprunte un terme à Heidegger, qu'il lit d'une façon assez idiosyncrasique. Mais le terme est Lebensraum, c'est pas l'espace de vie, si vous voulez, n'est-ce pas ? Mais il dit, ce terme qu'il emprunte à Heidegger, dit-il, n'est pas une enceinte qui limite la vie, mais une ouverture qui permet le mouvement et la croissance. Bon, il faut dire que Ingold a fait ses débuts ethnographiques auprès de pasteurs de Rennes, de l'Arctique, et il souligne donc la différence entre une vision nomade, n'est-ce pas, faite de parcours, et une vision sédentaire faite d'occupation. De même, pour lui, les habitants, en ce sens-là, se fraient des chemins, c'est une entreprise, dit-il, unidimensionnelle, alors que les occupants prennent possession de surface à deux dimensions. Donc, pour lui, habiter est tout différent d'occuper. On ne vit pas à l'intérieur de place, on vit en cheminant à travers, autour, vers et à partir de ces places. Et cette expérience qui s'inscrit dans les corps, l'expérience de ce mouvement ambulatoire, si vous voulez, Ingold le nomme « wayfaring ». Là, j'ai vraiment pas, je ne sais pas trop comment traduire, mais je propose « cheminement ». Wayfaring, cheminement, si vous voulez. C'est approximatif. Enfin, si vous pensez à quelque chose de mieux, je serais ravie de l'entendre. Alors, donc, il dit, voilà, quand... Et là, il s'appuie sur un exemple. Il s'appuie sur plusieurs exemples, d'ailleurs tirés de chasseurs-cueilleurs. Et ces exemples sont intéressants parce que ce sont, au fond, il reprend à son compte la théorie de la connaissance de sociétés autres. C'est ça qu'il va faire en disant, par exemple, chez les Inuits, un homme est une trace. Un homme est une trace. Et de même, chez les Walbiri, qui sont un peuple du désert central d'Australie, n'est-ce pas ? Leur ethnologue, si vous voulez, un très grand anthropologue qui s'appelle Roy Wagner, dit, eh bien, une personne, c'est l'ensemble de ses traces. Donc, et alors, Ingold va faire toutes sortes de schémas de ce genre, n'est-ce pas, en disant, voilà, c'est comme ça qu'il faut penser de façon donc linéaire et non pas bidimensionnelle l'expérience du monde, n'est-ce pas. Donc il ne faut pas, dit-il, se laisser abuser par une logique, là je le cite, une logique de l'inversion qui transforme les chemins au long desquels les gens vivent leur vie ont des propriétés contenues dans les limites des individus. Donc, tout le temps, il insiste sur cette façon de voir. Et qui est donc une transposition, si vous voulez, de théorie de la connaissance de peuples soit demi-nomades, soit complètement nomades, soit nomades saisonniers, mais enfin, ce sont toujours ces exemples qu'il va mettre en exergue. Et ce qui est intéressant, au fond, le tour qu'il parvient, c'est un auteur plein de verve et d'imagination, il faut le dire, n'est-ce pas ? Alors, ce qu'il fait, c'est qu'il s'appuie d'un côté sur la phénoménologie, en tant que courant de la philosophie contemporaine, et s'appuyant donc sur ces théories de la connaissance de chasseurs-cueilleurs, il en fait une sorte de théorie universelle du savoir. Donc, quand il passe à une analyse des savoirs, et là, tout comme les cognitivistes, ce qu'il va faire, c'est avoir recours, lui aussi, au savoir sur le monde biologique, n'est-ce pas ? Voilà ce qu'il fait. Il imagine d'abord une équipe de scientifiques qui étudie les changements dans l'écologie et l'hydrologie de la toundra arctique, quelque part au nord de la Russie. Il paraît que on ne peut le faire qu'en été, et qu'en été, c'est une région infestée de marais et de moustiques, donc ces gens vont en hélicoptère. Et leur projet, dit-il, est de trouver les causes principales des changements donc, écologiques et hydrologiques dans la toundra. Ils ont fait un transect de 1000 km, avec des intervalles réguliers tous les 50 km, et à chaque intervalle, ils vont recueillir des données, des échantillons de sol, des échantillons d'eau. Et ces données seront comparées les unes aux autres dans des bases de données. Et ensuite, on cherchera des corrélations pour construire un modèle qui puisse prédire, par exemple, des changements de climat ou de changements d'écosystème. La connaissance qu'on en attend, dit Ingold, est donc le produit de ce qu'il appelle une intégration verticale. Là encore, des termes qu'il introduit, n'est-ce pas ? Une intégration verticale, c'est-à-dire la prise en compte des données dans une structure taxonomique qui est déjà en place, n'est-ce pas ? Et qui permet de faire ce saut du particulier au général. C'est un mode de production de savoir, n'est-ce pas, qui engendre, dit-il, des faits. Et ces faits auront désormais une existence en eux-mêmes. Ils sont devenus indépendants de tout contexte, ils existent. Là, cet exister, là encore, un terme sur lequel il met l'accent. La chose est toute différente pour les habitants. Ceux qui déambulent, qui cheminent sur le sol au lieu de survoler les lieux en hélicoptère et de se poser tous les 50 km. Pour eux, le savoir ne se construit pas, dit-il, de la même façon. Pour commencer, les choses pour eux n'existent pas, dit-il, elles surviennent. Ce sont des occurrences. Je souligne ces termes parce que c'est lui qui innove là, tout le temps avec cette façon de mettre en exergue certains termes. Alors, contrairement donc aux faits qui s'identifient par leurs attributs intrinsèques, les choses qui surviennent, donc ces événements, s'identifient dans la mémoire qu'ils conjurent, c'est-à-dire ils sont présents dans la mémoire. Ils n'ont pas à être classés comme des faits, consignés comme des données, mais ces choses-là, ces événements, ont plutôt à être racontés comme des histoires. Et le savoir, dit-il, n'est pas classificatoire, il est raconté. Alors, comment se construit ce savoir ? C'est, dit Ingold, le mouvement lui-même qui est la manière d'accéder à la connaissance. Donc, plutôt que de penser que le savoir préexiste et est ensuite appliqué à des situations pratiques, c'est la pratique elle-même dit-il, qui forme le savoir. C'est donc un processus permanent construit, vous l'aurez deviné, par des cheminements, par l'engagement dans le monde, avec le monde, n'est-ce pas ? Et l'intégration ne se produit pas verticalement, mais tout au long de ces cheminements. Donc, si le paradigme des connaissances verticalement intégrées est la classification, le paradigme, en revanche, de ce genre de connaissances est l'histoire que l'on raconte. Et l'accent sur la pratique et l'habitation dans le monde mène Ingold à nier toute transmission de savoir. Point important. Une transmission qui, dit-il, est aussi connue sous le nom de culture. Encore faut-il préciser, ce qu'il entend par transmission, ce sont les contenus, l'encyclopédie en quelque sorte, des connaissances des générations antérieures. Mais c'est en fait une question d'accent, n'est-ce pas ? Un accent sur les savoirs en tant que production, plutôt que sur les savoirs en tant que produit. Si on pense les savoirs en tant que produit, bien entendu, il n'y a pas de transmission. Mais si on pense les savoirs en tant que processus de production, façon de produire, il est évident, et c'est un aspect sur lequel j'ai écrit moi-même, il est évident que ce savoir-là est, d'une manière ou d'une autre, transmis. D'ailleurs, Ingold parle d'une sorte de redécouverte guidée, ce qui, à mon avis, revient à dire que certaines prémices et certaines procédures sont bel et bien transmises, qu'elles le soient de façon explicite ou plus probablement implicite, qu'elle se fasse verbalement ou qu'elle résulte d'une manière partagée de vivre dans le monde, il n'en reste pas moins que l'air de famille se conserve, même si les contenus, eux, sont sujets à modification. Au fond, il y a là une distinction qui est parallèle à celle entre conservation et préservation. Ce qui vit et qui change doit être conservé. Ce qui est inanimé doit être préservé, n'est-ce pas ? Donc, on ne préserve pas, on conserve. La transmission, donc, que ce soit la culture ou le code génétique, est d'ailleurs pour Ingold un aspect d'une querelle beaucoup plus générale avec ce qu'il appelle le modèle généalogique. C'est celui qui prétend que les spécificités génétiques et culturelles des individus préexistent à leur engagement dans le monde et leur viennent de leurs ancêtres. C'est ce qu'il appelle le modèle généalogique. Je vais sauter. Oh, ma foi. Je vais simplement vous faire remarquer qu'il est très curieux que il y a quelques jours, cette semaine même, un neuroscientifique a reçu le prix Fisen, de la Fondation Fisen, pour avoir mis en évidence des gènes qui peuvent placer des copies d'eux-mêmes dans d'autres régions du génome que les leurs à l'origine, et qui par conséquent modifient le génome au cours de la vie. Ce qui démolit, entre parenthèses, la prémisse que des jumeaux identiques ont bien le même bagage génétique. Il semblerait donc, et là, je cite Fred Gage, qui est ce savant, il semble que nos cerveaux et les réseaux neuronaux qui les constituent sont toujours en changement et s'altèrent avec chaque expérience nouvelle. Donc, on n'est peut-être pas... parce que ce qui paraît donc très, très hétérodoxe, ma foi, peut être soumis à révision. Mais pour en revenir à la transmission culturelle, Ingold dit que le modèle généalogique suppose des savoirs qui préexistent et sont mobilisés lorsque l'occasion s'en présente, soit des fins, soit des événements concrets. Mais, dit-il, cela revient à dire que ces savoirs sont hors contexte, indépendants de tout contexte. Or, l'organisation de savoir hors contexte, dit-il, ne peut que prendre la forme d'une classification. Il s'ensuit qu'affirmer que partout les savoirs s'organisent en classification est un argument circulaire, car il découle, dit-il, des hypothèses du modèle généalogique lui-même. Ce raisonnement, dont on peut débattre la logique, est à l'évidence dirigé contre les ethno-biologistes cognitivistes. Il n'empêche qu'il soulève une question intéressante. Serait-il possible que les classifications soient ce que les scientifiques appellent un artefact de l'expérience, je ne sais pas comment ça se dit en français, c'est-à-dire un phénomène induit par l'expérience elle-même. Je vous remercie. Merci.